RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Football Show. Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois. Mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot Nicolas Villas.
Oh, ravi d'être avec vous. Soyez les bienvenus pour 2 heures de bonheur. Soyez les bienvenus pour 2 heures d'after. Avec nous ce soir, il a été très bon hier. C'était sa première, voilà, premier match dans l'after. Vous avez été très nombreux à aller envoyer des messages très sympas sur le hashtag RMC Live. Et on vous y attend également ce soir. C'est que c'est le plus difficile, c'est de confirmer, paraît-il. Bonsoir Ludovic Obraniak.
Bonsoir monsieur Nicolas Villas.
Alors pour ceux qui n'ont pas la télé, branchez-vous sur RMC Sport News, puisqu'il a une très jolie chemise bleue, voilà, bleu ciel, avec un très joli petit gilet façon Miguel Cardozo, tu disais tout à l'heure.
C'était pour rendre hommage, je pensais que ce soir ça allait être la fin pour lui.
Oh, le salaud. Ouais, il avait bien commencé hier et là il est mal parti. Premier point pour le FC Nantes ce soir, match nul face à Caen également, et Miguel Cardozo, l'entraîneur de cette équipe, qui est un adepte du gilet bien sûr. Il est de retour. L'ange s'est envolé, ça c'est pour les connaisseurs bien entendu, Ali Benarbia, quelle mine, mais quelle beauté, quelle merveille.
On essaie de se refaire avec l'âge.
Non mais t'es sérieux, regarde-toi là.
Ouais, j'essaie.
T'es merveilleux mon pote.
Toi t'es tout beau avec ton doré là, très très beau.
Ouais, le pape bien celui-là,
magnifique,
c'est un des plus dégueulasses que je dois avoir, je te le cache pas celui-là. Noir avec et doré.
Et bienvenue à...
Ludo, bienvenue mon pote. Ouais. Il était bon hier, fais gaffe.
Ouais, la première est top, t'as vu, on t'envoie des bons messages.
Mais Ali, là,
attends la deuxième.
Les gens autour de lui.
On essaye. On a deux passeurs décisifs, là, les mecs. On a deux régaleurs. Hein. On devrait s'égaler ce soir.
Est-ce que t'es finisseur? Ça, je sais pas.
Ça, c'est une autre histoire. Pour les finitions, ça aurait été des hommes pour autre chose. Au menu de cet after, au sommaire ce soir, on va revenir, bien entendu, sur cette soirée de Ligue 1. La MCN du côté du Paris Saint-Germain qui a frappé. Nice qui s'est fait claquer par Dijon et qui a pris l'eau. Fait 4-0. Dijon qui confirme de son côté. Et puis on ira également du côté de l'Italie avec Simone Rovera. La Juve s'est imposée 2-0 face à la Lazio. Cristiano Ronaldo n'a toujours pas marqué. On ira également en Espagne, sachez-le, avec Fred Hermel. L'Atlético qui joue ce soir. Le Barça également. Tiens, quelques petits résultats justement. Je vous donne déjà les résultats de cette troisième journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain qui cet après-midi s'est imposé 3-1 face à Angers. Un partout entre Nantes et Caen. Amiens a battu Reims 4-0. Pas de but entre Montpellier et Saint-Etienne. Dijon a donc claqué Nice 4-0, victoire à Nice qui plus est. Et puis Toulouse s'est imposé 1-0 face à Nîmes, 4-1 d'ailleurs pour Amiens face à Reims. C'est ce que j'ai dit, non? J'avais dit 4-0. Ah bah voilà, merci Jérôme Thouin. Tiens, également une petite info Ligue 2. Il y avait une affiche de prévu ce soir, affiche de la 5e journée entre Béziers et Lens. Le match a été remporté.
Avec reporté. Un terrain impressionnant.
Voilà, alors le terrain était impraticable. Il faut dire que la veille, donc hier, il y a un match de rugby qui s'est joué entre Béziers et Massy. Donc il y a doublon, si tu veux, entre le foot et le rugby, ce qui est vachement pratique quand le rugby joue avant.
C'était un match de rugby de sanglier ou je. Parce que là,
c'est peut-être sur long,
parce que les trous, c'est impressionnant.
Comment on peut retrouver des terrains comme
alors,
ça?
Alors sachez qu'il y aura doublon au mois de février, normalement encore. C'est-à-dire que ce cas de figure se présentera. Alors ceux qui sont pas contents, c'est les supporters de Lens, puisqu'il y en a pas mal. Il y en a entre 6 et 8000 qui avaient fait le déplacement et ça leur a coûté des pépettes. Et du coup, forcément, ils réclament le remboursement de ce déplacement.
Il y en a beaucoup qui devaient être en vacances et qui ont dit qu'ils sont arrivés de Lens. Et
Il y
en a quelques-uns qui ont dû faire des déplacements.
Quelques petits résultats à l'étranger également. Sachez que Manchester City, le champion en titre, a fait match nul un partout à Wolverhampton, équipe promue, vainqueur du Championship la saison dernière. Mm-hmm. Arsenal, premier point pour Unai Emery, a battu West Ham 3-1. Et puis Liverpool s'est imposé 1-0 face à Brighton. En Italie, on vous le disait, la Juve a battu la Lazio 2-0. En Allemagne, Wolfsburg a battu Schalke 2-1. Et puis Mönchengladbach a battu le Bayer Leverkusen 2-0. Il y a des résultats en cours, je vous les donne vite fait aussi. L'Atletico, on joue depuis la 87, on a la 87e, 1-0 but de Griezmann face au Rayo Vallecano. Et à 22h15, il y a le match entre le Valladolid et le Barça qui va débuter. Match nul pour l'instant entre le Napoli et Milan de partout. Et le derby de Lisbonne, on a la 90e plus 9e minute du temps additionnel. Un partout entre les deux équipes pour l'instant, normal. Messieurs, on va commencer par le plus important. Le plus important, Ludo, c'est...
Les 3 points.
Il est là.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Mais souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Ali, fais-t-on ton retour dignement avec tes 3 points de ce soir?
Premier, Dijon flamboyant, il continue. 9 points, ils sont à égalité avec le PSG. Dalloglio fait un très bon boulot et ça continue, ça c'est une bonne chose pour Dijon. Amiens, qui continue dans le jeu mais qui avait pas fait un bon début, se rattrape à domicile en cartonnant un beau 4-0 à une équipe de Reims qui restait sur 2 victoires. Et par contre, à l'opposé, mes pauvres Niçois, Quand on dit méfie, l'aigle bat beaucoup plus de l'aile. Les deux ailes sont complètement déplumées. Ça va être beau, ça. Très très dur pour notre ami Patrick Vieira.
Il t'en manque un, non?
Ça fait trois.
Ça fait trois, il est là, il est bon. Tu sais que maintenant, il y a un compte. Il hein. y a un décompte hein, maintenant. Il y a un coup de sifflet. Et ben non, il viendra pas. Ouais, on va passer à Ludo, il y a quitté trois points, Ludo.
Alors pour ma part, moi j'aimerais qu'on parle du PSG. Du nouveau PSG de Thomas Tuchel.
Ah, on va longtemps en parler, on va pas mal en parler ce soir, notamment. On vous attend au 32-16 pour y revenir sur cette nouvelle compo d'équipe, notamment.
J'aimerais aussi accompagner Ali dans son premier point et mettre en lumière. On n'a pas eu l'occasion de le faire hier avec Strasbourg. On nous l'a un peu reproché. Donc, j'aimerais faire la part belle, justement, à ces équipes, justement, et mettre aussi la Ligue 2 à l'honneur. Toutes ces équipes-là qui montent, tous ces promus qui montent depuis quelques années et qui nous offrent des choses intéressantes et de la fraîcheur avec des entraîneurs qui tentent des choses à l'image d'Amiens, de Dijon, de Strasbourg la saison dernière. Voilà, toutes ces équipes-là, il faut aussi les féliciter car elles mettent en valeur aussi notre championnat.
Là, t'as pris un coup de sifflet.
Ah,
et il y a donc le troisième.
Dernier point, Cristiano Ronaldo à la Juve.
Ah non, mais voilà. Là, mon pote,
t'as pris il a pas marqué.
Là, t'es hors format. Là.
Il est quand même bien présent.
T'es hors format. Je vous donne mes trois points également. Moi, Thomas Tuchel aussi, parce que j'ai été assez curieux là face à cette nouvelle tactique, là, ce nouveau système de jeu. On va y revenir dans quelques instants aussi. Dijon, parce que c'est remarquable hein, ce qu'ils font. Tu le disais, ils sont co-leader avec le PSG ce soir. Oui, ça fait que trois journées. N'empêche qu'à l'extérieur, ils avaient du mal l'année dernière. Et là, ils vont en claquer quatre quand même à Nice. Et puis pour finir, Max Alain Gradel. Moi, déjà, j'aime beaucoup ce joueur. J'aime bien sa personnalité et grosse paire de couronnes ce soir parce qu'il foire un péno face à Nîmes. Et il refrappe le deuxième, il marque et grâce à ce but-là, eh bien Toulouse s'impose 1-0 face à Nîmes. Nîmes qui était bien parti dans ce championnat. Mmh. Donc voilà, big up à Maxime Gradel, qui on l'espère sera avec, peut-être d'ailleurs avec nous ce soir dans l'after également.
Oui. Voilà.
Messieurs, on commence par cette soirée de Ligue 1. Mais d'abord, on va aller faire un petit tour du côté du rugby. Il y a Flo Germain, c'est la reprise du top 14. Mon Flo Germain qui est du côté de Mayol. Le Toulon reçoit le Racing ce soir. Ça va, Flo?
Salut Nico, salut les gars, salut à tous. Ça va très bien, ça va moins bien pour les Toulonnais qui tenaient le Racing domine hein, largement cette rencontre. Ça, c'est surprenant, mais avec une équipe au complet du côté du Racing ou quasiment face à des Toulonnais encore en rodage, les dirigeants de Toulon et même le staff s'y attendaient. Et Toulon souffre. 6 désormais pour le RCT et 15 pour le Racing. Ce sont deux essais d'une des recrues phares de cette équipe du Racing, à savoir Finn Russell, le demi d'ouverture écossais. Donc deux essais consécutivement pour lui qui ont fait la différence dans une période où Toulon était à 14 après le carton jaune adressé à Fekito. À 52 minutes de jeu, 15 pour le Racing, 6 pour Toulon, à donc 28 minutes de la fin.
Allez, on plonge dans les affiches de ce soir de Ligue 1, de la troisième journée de Ligue 1. On va commencer alors par l'une des surprises de cette soirée, à savoir la victoire de Dijon 4-0 à Nice. Voilà, Aguerd, Adadi, Keita deux fois qui ont marqué les buts dijonnais. Nice qui a toujours pas gagné depuis le début de la saison. Il y a eu ce match nul face à Caen la semaine dernière. Dijon qui enchaîne sa troisième victoire de suite. Vous retenez quoi d'ailleurs plus? La victoire de Dijon ou la défaite de Nice? Le nouvel faux pas de Nice?
Les deux, mon capitaine.
Les deux dans le sens où Dijon a très bien joué, profité des erreurs niçois, mais par contre Nice, c'est pas la même équipe, on l'a dit. Colonne vertébrale qui a disparu, mais je ne comprends pas, je n'ai rien contre lui, le choix de Cardinal en sachant que Benitez lui avait pris sa place.
Ouais. Alors, on va pas dire que c'est de sa faute le match de soir à Cardinal, mais c'est vrai que pour le coup, il a pas fait un bon match.
Il est quand même impliqué sur deux buts. Hein.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que si Benitez lui a pris sa place alors qu'il était archi-titulaire Cardinal, c'est qu'à un moment ou un autre il l'a gagné. Donc qu'est-ce que tu fais en général, même quand tu arrives? Je ne critique pas les choix de Patrick Vieira, mais de d'abord laisser le titulaire en place, et s'il n'est pas bon, de remettre Cardinal. Là non, il redit à Cardinal non, tu rejoues malgré tout ce qui s'est passé, malgré les pizzas en trop. Et puis en fait, c'est pas là qui va t'aider. C'est au moment où tu reprends une équipe, ben, t'as besoin de tout ce qui est positif, et puis là t'as besoin d'un gardien qui rassure. S'il n'a pas rassuré avant, je vois pas comment il pourrait rassurer son équipe maintenant.
À sa décharge, Ali, on a vu qu'il a pas été aidé grandement par sa défense centrale ce soir, Cardinal. Hein.
Non, mais c'est vrai qu'il est pas, il est pas décisif. On n'a pas l'impression qu'il puisse faire grand chose.
Il sort à contre-temps sur le coup de pied arrêté, il ferme pas son angle. Après, il y a faute de marquage.
Non, mais après ça déroule. Après, à 2-0, ouais. Dijon à l'extérieur, ben ils s'en seraient. Nice, qui sont complètement perdus à des espaces de partout, ça va être très dur pour Nice cette année s'il n'y a pas des arrivées et des leaders, pas des arrivées juste pour combler l'effectif.
Comment vous expliquez que Nice galère autant en ce début de saison? Parce que certes, il y a eu des départs de cadre, tu le disais tout à l'heure, des joueurs importants. Non, mais là, tu perds 4-0 à domicile quand même. C'est pas.
Mais attends, Nico, là, on parle de cadre. On perd. Alors, on faisait le point avec Ali en coulisses. Tu perds Seri.
Le Marchand.
Tu perds Le Marchand. Tu perds Pléa.
Et Balotelli qui est pas prêt.
Ça fait quand même un sacré paquet
de joueurs. Ça te fait tout l'axe. Et Dante qui est encore en vacances. Rajoute ça. Cardinal qui n'a pas joué de l'an 40 et qui reprend. Ça fait quand même beaucoup pour un entraîneur qui arrive et qui part dans une autre façon de jouer que Lucien Favre. Bah, automatiquement, les joueurs sont complètement perdus et ça aide pas du tout. Quand tu, on le sait, deux joueurs importants dans une équipe comme le GC Nice, c'est trop important. Mais quatre d'un coup, ça fait beaucoup.
On peut aussi du coup comprendre la colère froide du président Rivière par rapport au cas Balotelli, avec justement cet échange plus ou moins avorté avec l'Olympique de Marseille, puisque ça a traîné sur la durée, que ça a un peu handicapé le mercato de l'OGC Nice, puisque Balotelli annonce qu'il reste finalement le 20 août. Au final, Balotelli, c'est quand même une masse salariale importante dans l'encadrement de l'OGC Nice. Ça veut dire que l'OGC Nice n'a pas pu travailler correctement durant ce mercato pour pouvoir justement pallier à cette absence.
Alors, cela dit, il n'aurait pas, de toute façon, pas joué les premiers matchs, puisqu'il est suspendu, Balotelli. Alors, il sera de retour. Il peut être de retour la semaine prochaine, il sera là. Quand même, quand on regarde les résultats de Nice, on le disait, deux défaites et un match nul. Ce qu'il y a quand même de très contrariant pour les Niçois, c'est que ces mauvais résultats, c'est face à Reims, face à Caen et face à Dijon. Le prochain match de Nice, c'est à Lyon. Ils vont recevoir Rennes. Il y a Nantes et le PSG qui arrivent. Il y a Montpellier entre temps. C'est vrai que là, ils perdent des points face à des équipes qui, sur le papier, du moins, sont plus accessibles, entre guillemets.
Complètement. Mais en plus, tu parles de match nul à Caen où ils égalisent dans les 10 dernières minutes.
Ouais, ça va à la fin, oui.
Patrick Vieira était content de ce point. Mais sur le fond, dans le fond du jeu, on l'a vu, ils sont un petit peu perdus. Et quand t'as pas de fond de jeu, et qu'en plus de ça, en général, quand t'es pas trop bon, qu'est-ce que tu fais? Tu te bats dans les duels. Là non, là, c'est les défenseurs en premier qui se regardent et qui attendent que les Dijonais, eux, ils leur mettent le pied dessus. Donc s'ils font ça déjà par rapport à ces trois équipes, qu'est-ce que ça va être face à une équipe qui va dérouler physiquement et techniquement?
On n'a pas vu de réaction non plus. Hein. On analysait l'interview de Dante à la fin du match où justement il explique qu'il met plus ou moins la faute sur ses attaquants qui ont eu des occasions qu'ils n'ont pas concrétisées. Ouais. Mmh. On a vu Patrick Vieira un petit peu sur le banc en manque de solution, un petit peu les bras croisés, discuter beaucoup avec son staff. Donc bon, il va falloir trouver des solutions rapidement du côté de l'OGC Nice.
C'est surtout qu'il regardait les matchs de Nice depuis deux saisons avec un football un petit peu à la hollandaise. Et là, il doit se dire, est-ce que je suis dans le même stade avec le même effectif de joueurs? Ça lui fait un petit peu drôle.
On accueille Alexis qui est supporter des Aiglons justement et qui va être en direct avec nous dans l'after. Salut Alexis.
Salut Nico, salut Ludovic, salut tout le monde, salut Ali Benarbia.
Bonsoir. Salut.
Bon, je crois Alexis que t'es pas content ce soir toi.
Me demandez pas si ça va pas. Voilà, on est au fond du trou ce soir. Hein. Mmh. On a joué Reims, on a perdu. On a joué Caen, on a pris un point miraculeusement et puis tout le monde était content à Nice. Hein. Le staff était super d'avoir pris un point, le mental, c'est bien de revenir à la 82e minute, hein, super. Hein. Caen, ça fait 13 matchs qu'ils ont pas gagné en Ligue 1, mais bon. Et ce soir, ben, la fessée monumentale. Hein.
Voilà. Contre Dijon. Ça.
Contre Dijon à la maison.
Comment tu l'expliques ça, Alexis, toi, justement, qui a autant de difficultés en ce début de saison à Nice?
Beaucoup de changements. On a perdu les cadres comme chaque année. Changement d'entraîneur où ça, on avait Puel et Favre qui étaient quand même des mecs expérimentés qui arrivaient. Vieira, je suis pas comme ça. Je vais pas tirer des conclusions au bout de trois journées, mais il y a beaucoup de choses bizarres quand même. Il y a beaucoup de choses. Je vais pas lui jeter le caillou. Là, je m'inquiète parce que là, je tremble, je suis en panique parce qu'on va à Lyon la semaine prochaine. Je sais qu'on va en prendre une, quoi, c'est sûr. Mmh. Même si Balotelli, pas Balotelli. Après, j'ai écouté Ali. Il a tout à fait raison. Qu'à mon avis, le Balotelli, ça met, même s'il reste chez nous, ça met quand même un petit peu.
Ça retarde ta préparation, ton mercato peut-être aussi. Mmh.
Ça retarde la préparation, ça retarde le mercato, ça nous a embêté tout l'été. Et puis, ça met quand même au club. On sait pas en fait. On sait pas le fin mot de l'histoire, quoi. Maintenant, il nous fait des vidéos. Si on était aussi fort en communication que sur le terrain, on serait bon. Hein. Ah, il nous a fait une vidéo cette semaine. Ah, je vous aime, je reste là. C'est mon choix. Ton choix. Ah, je suis désespéré.
Ah enfin, oui. Bon, Alexis, on n'est qu'à la troisième journée. Hein. Ouais. Tirons pas non plus des conclusions trop hâtives dès le départ.
Non, je suis d'accord avec Alexis dans le sens où pas que les résultats. Mmh.
le l'état, fond, l'état d'esprit.
Le fond, l'état ouais, mais d'esprit. Alors, attends, moi, c'est pas évident.
Je vais pas atténuer la victoire de Dijon. Mais enfin, j'ai vu un peu le match. Je regarde un peu les statistiques. Ils font 5 tirs cadrés. Ils marquent 4 buts. Ils font 8 tirs dans le match. La moitié va au fond. Nice, ils en font 3 fois plus. Tu vois, ça rentre mais pas aussi. Il y a ça aussi.
Est-ce que t'as vu Nice 16 tirs? Mais ça me fait rigoler, moi, 16 tirs.
Ouais, bah, il y a 17 tirs, ouais.
3 cadrés.
Ouais.
Et moi aussi, si tu veux, je peux tirer plusieurs fois sans encadrer la cage. C'est pas ça qui est important.
Mais c'est ce que je te dis. Ouais.
Pour une équipe qui est censée bien jouer et être bonne techniquement, comme ils ont montré pendant 2 années, je pense que Patrick a beaucoup de travail.
Non, mais c'est là que tu vois que Ballo est pas là, que Pléa est parti, et ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Il manque un killer devant.
La façon dont tu encaisses les buts est aussi symptomatique de l'état d'esprit actuel. Quand tu vois qu'un attaquant Dijonais au milieu de 4 défenseurs,
c'est lui qui met le pied.
Qui met le pied 2 fois, il a 2 contre favorables et c'est lui qui met le but.
On dirait la défense d'Arsenal cet après-midi. Donc c'est pas que cet après-midi d'ailleurs.
C'est pas normal.
Arsenal, c'est habituel.
Ouais. Bon, Alexis, merci en tout cas d'avoir été avec nous.
Après, je veux juste rajouter quelque chose. Jusqu'à la fin de la préparation, on avait Benitez dans les buts, vous en parliez avant, je ne peux pas comprendre aujourd'hui pourquoi on a Cardinal.
C'est vrai que c'est quand même difficile à capter.
Qu'est-ce qui a
mais j'aimerais qu'on ait au moins des explications claires.
Bah t'as vu, Patrick Vieira n'a pas trop voulu se justifier là-dessus, il a dit j'ai pas de compte à rendre, je décide.
Oui, non,
d'accord.
Ça, oui.
Ok. Bah. Qui décide alors? C'est bien.
Bah, je crois que.
Messieurs, bonne soirée alors.
Le prochain match.
Allez, Alexis. Bisous quand même.
Oh. Alexis, prochain match, il va décider encore, je pense. Patrick Vieira pour le poste de gardien.
Tiens, remercie Alexis, en tout cas supporter de Nice, qui nous a appelé au 32-16. Ça nous vient en direct. La réaction en direct d'Olivier Dalloblio, l'entraîneur de Dijon, qui s'est imposé donc 4-0 à Nice ce soir.
Après, voilà, on a parfois bien défendu, parfois c'est eux qui ont été un petit peu maladroits. Mais la différence s'est faite dans les 18 mètres, voilà, où on a été efficace et eux beaucoup moins. Voilà, la différence, elle est là. Maintenant, il faut reconnaître qu'il n'y a pas une différence de 4 buts entre les deux équipes, loin de là.
Et la réaction directe d'Olivier Dalloblio, l'entraîneur de Dijon, qui s'est imposé 4-0 à Nice ce soir.
Ah oui, bah, on regarde plus les points, effectivement, que le classement, parce que le classement, il est amené à évoluer. Tandis que les points, on les garde. Et ça c'est important pour nous, c'est important pour le club. Voilà, c'est pas ne pas être ambitieux, hein, mais on sait qui on est, on sait d'où on vient, on sait le travail qui nous reste à faire. Voilà, on est quand même conscient là-dessus. Aujourd'hui on profite, c'est bien. Maintenant, voilà, moi j'ai encore des axes de travail, notamment avec cette équipe-là. Ce qui me plaît bien, c'est l'état d'esprit. Voilà, on sent que c'est des garçons qui sont vraiment déterminés. Il y a un très bon état d'esprit. On commence à être un peu plus discipliné, ce qui est bien, et ce qui me change un peu des saisons auparavant, voilà. Et puis on a un peu, je pense, un brin de chance aussi, voilà, avec le gardien qui fait les arrêts quand il faut aussi. Donc voilà, aujourd'hui ça nous fait un très bon début de saison. On apprécie, on reste tranquille, on reste calme. Il n'y a pas besoin de s'affoler, parce que peut-être un jour ce sera un peu plus compliqué. On restera tranquille, on restera calme, comme on est resté calme la saison dernière.
Voilà. Et supporters de Dijon, on vous attend au 32-16 également, pour revenir sur ce début de saison de Dijon, qui s'est imposé face à Montpellier-Nantes et 4-0 ce soir face à Nice,
Quand on l'entend, on sent de la sérénité. Dans le sens où souvent, c'est pas pour faire de la publicité à Ludovic, tu as un joueur, je prends exemple, Gourcuff, qui avait plus ou moins des problèmes, mais qui arrive dans cet effectif. Il va apporter quelque chose dans le vestiaire et à l'entraînement qu'un joueur d'expérience peut apporter à une équipe comme Dijon qui n'a pas autant de joueurs d'expérience que ça. Et quand tu vois un joueur comme Ludovic Obraniak qui est libre et qui pourrait apporter à quelques équipes qui se retrouvent entre la 10e et la 20e place, puis après beaucoup pleurent parce que d'un coup ils se retrouvent en Ligue 2 et que c'est beaucoup plus dur pour monter et un problème de budget, qu'un joueur comme ça soit dans les vestiaires et n'est pas là à vouloir tout le temps être présent, jouer titulaire, t'as besoin de ce style de joueur. De Montagne, il y avait beaucoup plus de joueurs d'expérience que de jeunes, il y en avait très peu. De nos jours, entre la 10e et la 20e, t'as beaucoup plus de jeunes que de joueurs d'expérience. Et tu en as besoin.
Je pense que
Gourcuff doit faire un petit peu son travail. C'est ce que doit apprécier Dalloglio, Johan Gourcuff, dans les vestiaires.
Il n'est pas entré en cours de jeu ce soir à Nice.
Il a
joué 10 minutes. Hein. Il a fait 3 minutes et 7 minutes depuis le début de saison. Mais c'est vrai que c'est important ce que dit Ali dans le vestiaire. Il a un truc à témoigner, à donner.
Bah, je remercie Ali déjà parce que venant de lui, j'apprécie, ça me touche. Bien sûr, Johan Gourcuff, il rayonne, même s'il ne joue pas, il est dans les vestiaires. C'est quelqu'un, pour le connaître par le biais de différentes personnes que j'ai côtoyées à Bordeaux, c'est quelqu'un d'ultra professionnel. Donc forcément, il doit tirer tout le monde vers le haut avec lui.
Il doit montrer l'exemple.
Et c'est quelqu'un qui sait aujourd'hui où il en est physiquement, qui sait qu'il
très bien qu'il ne peut pas jouer 40 matchs dans la saison, qu'il jouera peut-être ses 15 matchs, ses 10 matchs dans la saison, mais qui va apporter son expérience, son professionnalisme, sa vision du football.
Ça va jouer.
Donc voilà, c'est peut-être pas visible pour l'instant sur le terrain, mais en tout cas en coulisses, je suppose qu'il doit apporter quelque chose. Mmh. Et j'en sais quelque chose puisque tu connais ma proximité avec Flo Balmont, avec qui j'ai joué à Lille, exactement. Et je sais que ça travaille très bien du côté de Dijon. Mmh.
Laurent est supporter de Nice et il nous a appelé au 32-16. Bonsoir Laurent.
Oui, bonsoir messieurs. Ouais, j'ai un peu du mal
Il a pris deux cachets, Laurent. Deux cachets.
Ah non, j'ai du mal à digérer. Ça me rappelle les années noires de l'OGC Nice il y a quelques années en arrière, là. Des soirées très très longues.
Alors, cela dit, tu sais quoi, Laurent, je regardais, je me suis dit 4-0 à domicile pour Nice, ça doit remonter, c'est pas si vieux que
Monaco.
Ça. Novembre 2017, ils avaient perdu 5-0 à domicile contre Lyon.
Ah,
ouais. Je sais qu'ils avaient. C'est pas si vieux finalement comme raclé.
Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'ai assisté au match ce soir, c'est qu'on manque complètement de joueurs cadres. Donc, Arnaud Souquet ne joue pas, on ne sait pas pourquoi, il est brouillé avec Vieira, a priori. Mais derrière, franchement, il manque des joueurs à tous les postes, en fait, hein, au milieu, derrière, devant, c'est une catastrophe, parce qu'on ne sait pas quoi faire du ballon, on essaie de rentrer avec le ballon dans le but, il n'y a pas de frappe lointaine, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très flippant, j'ai très, très peur cette année. Ça fait longtemps que j'ai pas eu peur comme ça.
En plus, Laurent, t'as dit, il manque devant, au milieu, derrière, tu pouvais rajouter au poste de gardien.
Ouais, bah, c'est derrière.
C'est encore plus derrière. Et c'est vrai que j'aimais bien Souquet. C'est vrai. Latéral, qui se donne, style joueur de club, qui fait des allers-retours, qui lâche rien. Et c'est vrai que là, ce qu'on a vu face à une équipe de Dijon, si tu n'arrives pas à bien jouer au football, au moins, montre un petit peu de l'agressivité dans les duels. Si tu gagnes les duels, c'est le minimum déjà. Et là, je sais pas, habituellement, quand tu allais jouer à Nice, tu sentais que ils allaient mettre le pied, que c'était un petit peu chaud.
Bah, il y avait aussi l'ambiance qui faisait
complètement.
Aussi
que, là, mais ça a un petit peu changé. Il faut que quand tu n'as pas les joueurs comme Seri, comme Pléa, tu as d'autres forces.
Et puis tu te coupes d'une partie de ton public aussi. T'as pas beaucoup recruté, t'as pas compensé la perte de tes cadres. Je suppose qu'il devait pas y avoir grand monde ce soir au stade.
Laurent. Bah écoutez, il y avait pas une mauvaise ambiance, on va dire. On va dire que la brigade sud a continué à chanter, a même appelé les joueurs à la fin. Mais je pense que ça va pas durer longtemps. Hein. Les histoires d'amour comme ça en général durent pas très longtemps à Nice. Et le problème, alors vous parlez des gardiens, effectivement, Cardinal, je le porte pas dans mon cœur, hein, malgré que ça soit un Niçois pur, plus ou moins. Mais par contre, alors on a l'autre gardien Benitez, mais à ce moment-là, quand on savait qu'on n'avait pas vraiment de bons gardiens, il fallait rentrer un troisième. Au moins quelqu'un qui vienne pallier, qui vienne en second gardien. Mais on n'a même pas acheté un gardien. On n'a pas de gardien en fait.
Ouais, mais Laurent,
si
Cardinal là, il est titulaire, alors qu'on pensait que ça allait être Benitez. Bah, pourquoi tu voudrais un troisième gardien pour couper la concurrence, enfin pour trancher et dire ça sera le numéro 1?
Non, parce que pour Laurent, ces deux gardiens ne sont pas top
au niveau.
Ouais.
Voilà. Tout simplement.
Ouais, mais maintenant, on a tellement parlé de la cellule de recrutement de l'OGC Nice ces dernières années que c'était exceptionnel. Est-ce que cette année, ça va pas faire pchit?
Bah, on a joué 3 matchs, quoi. Faut voir.
Le recrutement, ça fait un bon moment. C'est pas.
Non,
c'est
mais
pas
là, t'as perdu des cadres. Le temps que les autres s'installent, tu vois, Danilo vient d'arriver. Il y en a d'autres hein, comme ça hein, qui viennent d'arriver.
Bon, on peut pas leur reprocher. Ils ont quand même flairé les bons coups ces dernières années.
C'est vrai.
C'est pour ça que je dis, pour avoir fait du très très bon travail, j'espère juste que au moment de l'arrivée de Patrick Vieira, qui n'a pas non plus, je veux dire, une ancienneté au niveau d'entraîneur, qui se retrouve pas avec un effectif beaucoup beaucoup amoindri au niveau qualité, je parle.
Laurent, c'est quoi? On a un cadeau pour te consoler, merci. Mon pote. Un t-shirt de l'After. Ouais. L'important, c'est les 3 points et je pense que t'en as bien besoin ce soir.
Ah ouais, c'est vraiment au fond du trou, les gars. Vraiment, mais bon, c'est comme ça, hein.
C'est les nouveaux t-shirts de l'After, Laurent. On suit pas ta gueule.
Ça me met du bon au cœur, les gars. Merci, en tout cas.
Voilà, bah, raccroche pas, du coup, on prendra ton adresse et on enverra des potes chez toi aussi pour passer de l'argent.
Merci beaucoup. Des mouchoirs aussi. Des mouchoirs, ça m'éventoire beaucoup, je crois.
Ouais, je sais, j'ai eu peur. Je croyais que tu parlais d'autre chose, moi. Les mouchoirs de l'After, on peut faire aussi.
Faudrait que.
Salut Laurent, bonne soirée, bisous.
Allez, bonsoir.
Pour l'OGC Nice, en dessous.
Salut Laurent. Tiens, on va faire un petit tour du côté de Mayol, retrouver Flo Germain, match entre le Toulon et le Racing. C'est la reprise du top 14, Flo.
Oui, et on a un stade Mayol qui est très silencieux. Je pense que les Racingmen viennent d'éteindre quasi définitivement les supporters toulonnais parce que troisième essai pour le Racing, il y a 3 petites minutes.
Ça commence à piquer là.
De Juan Imhoff, effectivement, après 2 de Russell. 22-9 désormais en faveur du Racing dans une période pourtant où Toulon était à 15-14, était revenu à 6 points avec une pénalité de Carbonel, mais une interception de Juan Imhoff, un sprint et donc le troisième essai pour le Racing. 22-9. Peut-être que le Racing va même aller prendre le bonus. Ce serait un petit coup de tonnerre déjà dans ce top 14, en tout cas ici à Mayol. 15 minutes à jouer et donc 22-9 pour le Racing.
Merci beaucoup Flo Germain. Dans quelques instants, on reviendra sur le premier point glané par le FC Nantes cette saison. Nantes qui a fait match nul face à Caen, vu partout, supporters des Canaries, supporters normands. On vous attend au 32-16. On vous rappelle que tout à l'heure, on sera avec Simone Rovira. La Juve s'est imposée 2-0 face à la Lazio. Match spectaculaire entre le Napoli et Milan. On ira en Espagne également retrouver Fred Hermel. L'Atlético a joué ce soir. Griezmann a marqué. Le Barça joue également à 22h15. C'est parti d'ailleurs depuis 10 minutes pour le Barça. On vous dit à tout de suite avec Ludo Bragnac et Ali Benarbia au 32-16.
MC Football Show. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
Toujours accompagné d'Ali Benarbia et de Ludovic Obraniak. On attend vos commentaires sur le hashtag RMC Live, bien entendu. On vous attend 32-16 sur l'application Direct Studio. Fais-nous un petit hashtag, allez. Bim bim, clac clac.
Là, tu vois, tu le fais.
T'as vu? Tu comme claques ça, comme ça les deux doigts pour que ça fasse un hashtag.
Deux doigts et un
doigt. Et après, tu puis l'écartage voilà, des bras. L'écartage des bras.
Écartelage.
Il y a eu d'autres écartages ce soir également. Résultat de cette troisième journée de Ligue 1. Le PSG a battu Angers 3-1. Dijon est allé s'imposer 4-0 à Nice. Vous étiez avec nous au 32-16 pour en parler il y a quelques instants. Toulouse a battu Nîmes 1-0. Match nul. On y revient dans quelques secondes entre Nantes et Caen. Un but partout. Pas de but entre Montpellier et Saint-Etienne. Et première victoire. Premier point également pour Amiens ce soir. Victoire 4-1 face au Stade de Reims. Demain 15h. Lille-Guingamp, à 17h, Bordeaux-Monaco, c'est pas mal. Et puis, à 21h, l'affiche entre Marseille et Rennes. Je peux vous dire que Jérôme Thomas, il est déjà comme un ouf. Voilà, parce que demain, il y a son Stade Rennais qui joue, les gars, face à l'Olympique de Marseille.
Ouais, Stade Rennais.
Nantes-Caen, un but partout. Nantes qui avait perdu ses deux premiers matchs de Ligue 1. 3-1 face à Monaco, 2-0 face à Dijon. Qui a arraché le point du match nul. Voilà, pénalty marqué par Salah à la 80e. Crivelli avait marqué le premier but de ce match un peu après la demi-heure de jeu. Et donc, premier point pour l'équipe du FC Nantes. Vous retenez quoi, tiens, de ce match nul, justement? Toi, tu les voyais déjà paumés, Ludo. Dis la vérité. T'avais mis le petit gilet pour te foutre de la gueule de Cardozo, déjà?
Non, je les voyais pas paumés, mais c'est vrai qu'ils... Ils sont en grande difficulté, d'autant plus j'ai vu les choix au début du match qui sont censés être des choix forts mais peut-être pas des choix judicieux. Tu te prives quand même de ton buteur l'année dernière qui t'a mis quand même plus d'une quinzaine de buts ou autour d'une quinzaine de buts. Bosquilla sur le banc aussi, alors si je me trompe pas, Waris également. Je suis pas sûr, mais c'est ce que j'ai cru voir.
Waris a débuté sur le banc.
A débuté sur le banc.
Après, physiquement, il est pas top encore, Waris.
Ouais, mais tu joues à domicile.
Oui, mais s'il est pas top.
T'as pas besoin de joueur qui est top physiquement, sachant que tu as ça là.
Non, mais il sortait de moins compliqué à Porto, c'est vrai qu'il avait peu de compète dans les jambes.
Voilà. Alors, on est plein de bonnes intentions du côté de Nantes. J'ai vu les premiers matchs. C'est vrai qu'au niveau du jeu, il y a de l'amélioration. Mais au niveau de l'efficacité, on n'est pas dans les clous. Et c'est vrai que le président Kita, il est pas non plus réputé pour sa patience légendaire. Donc, il y a déjà la pression sur les épaules de ton ami portugais, Nico.
On va lui poser la question. Est-ce que tu penses qu'il se serait trompé sur le coach ou pas du tout, Nico?
Bah après, il a pris un coach qui avait une philosophie qui était totalement assumée, décomplexée et qu'il avait affichée. Donc si, Valdemar Quetta savait ce qu'il prenait. Après, le coach est venu, il a fait des choix. Est-ce qu'il a les joueurs aujourd'hui pour faire ce qu'il a envie de faire? Je sais pas. D'ailleurs, puisque tu parlais des choix offensifs, c'est vrai que depuis le début de la saison, s'il y a bien un secteur de jeu dans lequel il stade depuis le début, il essaie de trouver la formule, c'est en attaque, hein, on le sent. Hein. Encore là, je regardais les stats, 15 tirs dans ce match, il y a 3 tirs cadrés pour Nantes encore.
Si on reprend la chronologie, ils font le choix de Gourvennec, non? Au départ, ils trouvent pas d'accord avec Gourvennec.
Je vous coupe, messieurs. Priorité au direct. Patrick Vieira est en direct en ce moment même en conférence de presse, lui qui a perdu 4-0 à domicile face à Dijon ce soir.
Sur le plan offensif, mais aussi sur le plan défensif, on n'a pas très bien, défendu. On a été assez timide. Mais bon, le message aux joueurs à la fin du match était que bien jouer, ça ne suffisait pas. On avait besoin de plus, et ce plus on l'a pas eu ce soir, mais je pense que de ce match là il y a beaucoup de leçons à tenir.
Patrick Vieira en direct en conférence de presse, lui qui a perdu ce soir 4-0 à domicile face à Dijon. Allez, on continue d'écouter Patrick Vieira qui a déclaré au tout début de sa conf de presse, 4-0 c'est très dur, hein. Forcément, il a perdu à domicile 4-0, Patrick Vieira. L'entraîneur des Aiglons.
Je sais pas si ça n'a pas très bien fonctionné, parce que ça nous a quand même permis de créer quelques décalages et de nous créer quelques situations. Je pense que la défaite de ce soir est due aussi au manque de réussite, manque d'agressivité, et puis après, je pense que sur le plan tactique, c'est secondaire, parce que quand on regarde le contenu du match, on aurait pu marquer quelques buts ce soir.
Allez, la réaction de Patrick Vieira, l'entraîneur de Nice. Défait 4-0 à domicile ce soir.
On manque aussi de caractère, on a manqué de personnalité, on a manqué d'agressivité, et c'est pour ça que ce scénario, surtout après avoir pris ce premier but, est devenu catastrophique. On n'a pas su réagir, on n'a pas eu assez de joueurs pour porter l'équipe vers le haut. Et malheureusement, on n'a pas su répondre après avoir pris ce premier but.
Voilà, c'était la réaction donc de Patrick Vieira en conférence de presse, lui qui a perdu ce soir 4-0 face à Dijon. Bah, on sait qu'il n'est pas très expressif, Patrick Vieira, il a l'air un peu abattu quand même.
Non, mais pardonnez-moi, mais Ali, tu dois peut-être enfin, je connais pas l'homme, mais bon, je me souviens d'un joueur de caractère quand même sur le terrain, quelqu'un de tranchant.
Mais il parle très
il est très réservé, ouais.
Il parle très doucement, mais par contre, sur le terrain, lui. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'il dit que dans le contenu, c'est bien, et puis après, il dit qu'il manque de caractère, d'agressivité, il manque beaucoup de choses, alors que...
C'est contradictoire, tu veux dire.
C'est contradictoire dans le sens où non. Tu dis, oui, mon équipe est passée au travers, oui, on a pu se créer une ou deux occasions, j'ai un gros problème défensivement parce que tu peux pas en prendre quatre chez toi à domicile face à Dijon. Même si Dijon, il y a des espaces où ils peuvent se créer, arrive un moment, tu as assez des joueurs d'être compact et ton gardien pour tenir la baraque, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc, ça fait beaucoup trop de manque pour dire que le contenu est bon.
Tu n'as pas senti un trouble, Ali, là, sur ce que tu entends, enfin, au niveau de ce que ça
de
porte.
De ce que tu ressens, tu veux dire.
De ce que tu ressens. On sent quelqu'un de résigné, de quelqu'un de limite abattu. Moi, je suis joueur, j'entends une... Enfin, c'est un peu timide.
Mais après, comme disait Ali, c'est quelqu'un de calme.
La voix du coach, elle doit porter à ce moment-là. Ouais. Tu as besoin de
tu
quelqu'un
qui
de fort.
Du point sur
mais
la
non,
après,
qui tape du point sur la table. Mais c'est lui qui a la responsabilité de cette équipe-là. Il doit se faire entendre et trouver, enfin, montrer que lui est fort malgré la tempête qui s'annonce déjà. Là, je sais pas, ça envoie un message pour moi. Si je suis joueur... Ouais. J'entends la conférence de presse, c'est pas pour me rassurer.
Maintenant, après, il y a le discours de la presse, après le discours qui a dû avoir les joueurs dans les vestiaires. Est-ce que c'est pas aussi un petit point d'interrogation qu'il envoie à ses dirigeants en disant on avait dit qu'il y aurait ceci ou cela et pour les
mais dans ce cas-là, il faut le dire, Ali, c'est pas ce qu'on ressent dans ce qu'il dit.
Et il vient d'arriver, peut-être qu'il ne va pas le dire de suite. Tu vas avoir un Pouillet qui va te l'envoyer à tout va, et tu vas avoir un Patrick Vieira qui parle. Bah tu entends le terme.
Non mais d'accord, mais dans ce cas-là, tu dis même de façon diplomatique, peut-être que l'équipe s'est pas assez renforcée, on a perdu des joueurs importants.
N'oublie pas une chose, il vient d'arriver, donc il se dit déjà, je vais travailler et essayer de voir un petit peu ce que je peux faire.
Enfin, le mercato c'est que 36 jours, hein, donc.
Exactement.
Ouais, il y aura plus d'autres matchs. Hein. Tiens, il y a pas mal de réactions d'ailleurs face à l'intonation de Patrick Vieira en conférence de presse. Il y a The Wasabi sur le hashtag RMSLF qui dit, s'il continue de faire des confs de presse aussi dynamiques, Patrick Vieira va détrôner Jacques Santini dans nos cœurs. Alors, je pense que c'est indétrônable, hein, quand même.
Ça, je pense.
Alors, c'est quand même... Mais c'est sa personnalité aussi, à Patrick Vieira. C'est
Jacques
ce qu'on
Santini, titulaire.
Hein. Ouais, je pense qu'il est indétrônable. Hein. Messieurs, revenons à nos moutons, plutôt à nos Canaries. Un partout, donc, entre Nantes et Caen, ce soir. Tu disais, je t'ai coupé tout à l'heure, Ludo.
Sur les Nantais. Et son collègue.
Ça y est, il s'en souvient plus, t'es sérieux?
Non, on disait qu'il y avait déjà un peu la pression, sur le match qui va, le match qui va arriver, parce que bon, il y a des ambitions au niveau du jeu, mais c'est vrai qu'au niveau de l'efficacité, c'est pas au rendez-vous pour le moment, et je te
prochain dis, match, c'est Strasbourg, Reims et Lille.
C'est pas simple, hein.
Non.
C'est pas simple.
Tu joues Strasbourg, Reims, Lille, c'est pas Lyon, Marseille, Monaco, PSG.
Tu joues à la Méno, hein.
Oui.
Ah, c'est chiant.
Ah oui, ça.
Ah non, mais la Méno, c'est. Tu sais, toi. Toi, tu sais aussi, t'as joué à la Méno.
Moi, j'adorais jouer à la Méno.
Ouais, mon gars. C'est un beau stade, hein.
Ah, mais c'est top.
Mais si on va accueillir Nicolas, supporter de Caen, qui nous a appelé au 32-16. Salut, Nicolas.
Non, supporter de Nantes, pardon.
J'ai dit quoi?
De Caen.
De Caen.
Mais c'est pareil, tout ça, mon pote. C'est la province, mon gars, on est à Paris, nous, tout ça. Oh! Non, excuse-moi, supporter de Nantes, on l'a refait. Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir, oui, je voulais juste intervenir et ce soir, d'habitude, j'ai souvent l'habitude de critiquer les joueurs et ce soir, je vais plutôt critiquer l'entraîneur et dire que bah, le match nul est pour lui. Faut savoir aussi le dire de temps en temps, j'espère qu'il saura le reconnaître puisque sa composition de départ des 45 premières minutes était tout simplement pas la bonne, voire même catastrophique.
je comprends pas, on achète des joueurs à Nantes, des joueurs qui ont du ballon, on achète des Waris, qui est plutôt un joueur dynamique, qui amène de la vitesse, de la profondeur. On a un Bochilia qu'on fait venir, qui est plutôt un joueur fin, un joueur dont on a besoin au milieu de terrain. Et puis on nous ressort les Koulibaly qui font 1m97, qui est un jalon posé sur un terrain de foot. Donc oui, Monsieur Cardozo, pendant 75 minutes, pendant 45-55 minutes, vous êtes trompé. Donc et aujourd'hui, il va falloir faire les bons choix. J'ai l'impression qu'il tourne autour un peu du pot. Et on fait pas jouer Salah, c'est notre meilleur buteur. Il rentre, il amène un peu de, avec ses qualités, ses défauts, mais il amène au moins de la hargne, de la vitesse sur le front de l'attaque. Alors qu'on a mis des joueurs au départ qui n'ont pas le niveau, quoi, qui n'ont pas le niveau de jouer en Ligue 1. Donc aujourd'hui, on peut pas me parler de la méthode Cardozo qui a un jeu flamboyant de possession. La possession contre Caen, excusez-moi, ils ont eu une occasion, une demi-occasion. Et puis on n'a rien vu d'autre, quoi, de cette équipe de Caen qui sera dans le bas de tableau. Comme Nantes, pour l'instant, je pense. Mais en mettant peut-être une composition un peu plus offensive, on a retrouvé les vieux démons de Ranieri de l'année dernière, avec une pointe, un 4-5-1, avec un grand gaillard devant, et puis des grands ballons devant, c'est pas ce qui est bon pour Nantes, quoi.
Là, je suis entièrement d'accord avec toi, dans le sens où, je sais pas, quitte à vouloir un entraîneur où il y a du jeu, et là, tu n'as pas de jeu. Et qui plus est, il se trompe au niveau de ses choix offensifs. Et on savait que Nantes avait un gros problème dans ce poste offensif. Donc la moindre des choses, déjà, laisse ton attaquant qui au minimum marque des buts. Et si après il est moins bon, t'auras toujours le temps de le remplacer. Mais apparemment, là, moi je serai à sa place déjà. C'est ce que j'arrive pas à comprendre des entraîneurs qui arrivent et qui changent le tout. Déjà, tu mets ça là. Et si ça va pas, tu le changes. Mais tu fais pas le contraire.
Et Ali, aujourd'hui, on jouait quand sans manquer de respect à cette équipe, on est à domicile. Mmh. T'as besoin de points. Et joue un 4-4-2 avec Waris et Salah en pointe, et puis au moins prends des risques, quoi. Et pas un 4-5-1 avec un mec qui fait 1m97, qui a besoin d'un joueur qui prend la profondeur à côté de lui, et il n'y en avait pas. Donc on met des grands ballons, comme à l'époque, avec Sigthorsson ou autre. Et on ne sait pas faire.
Est-ce que tu avais trouvé quand même le premier et le deuxième match prometteur? Est-ce que tu es déçu par ce troisième match, mais les deux premiers matchs, tu en avais
pas
quoi?
Non, à Dijon, on peut pas dire que c'était prometteur à Dijon.
Mais sur le premier match, cadré. En tout cas.
Le premier match, oui, mais il avait mis justement, il avait mis sa philosophie en place, entre guillemets, en disant, on va aller chercher haut, on va faire un pressing, on va mettre de la vitesse. J'ai envie de dire, on perd, mais au moins, il y a quelque chose. Aujourd'hui, tu fais un match nul un partout, sur ces 45 minutes, tu peux te mordre les doigts, quoi.
Donc tu trouves qu'il est déjà en train de s'adapter à une situation qui doit lui permettre.
C'est la philosophie.
Ouais. Et je pense que le discours du président n'a pas été bon cette semaine dans l'équipe quand il a dit il va falloir revenir à des principes entre guillemets, il sous-entendait
prendre des
principes
points.
De Ranieri, des principes à Ranieri, revenir à des bases de bien défendre. Et c'est pas ça. Enfin c'est faut le laisser faire sur le principe qu'il avait démarré à Monaco, mais là aujourd'hui il s'est trompé dans sa compo et dans son organisation.
Très bien, le message est passé. Merci Nicolas en tout cas.
Merci Nicolas.
Merci.
Bonne soirée Nicolas. Ciao, ciao. Tiens, un petit mot également avec Benoît qui est supporter de Caen et qui nous a appelé lui aussi au 32-16. Salut Benoît.
Bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir Benoît.
Salut Benoît.
Bonsoir Ludo, bienvenue dans la famille Afterfoot.
Merci.
Ils sont sympas hein, les Afteriens.
Cool. Au début ils sont sympas. Très bien des tacles.
Bon alors Benoît, t'es content ou pas de ce point du match nul? Quand tu avais déjà fait match nul la semaine dernière face à Nice
hein. Oui, c'est un point bien payé parce que on montre pas grand chose dans le match. Hein. On a une occasion, un but. Le reste du temps, première mi-temps, très grosse intensité au milieu de terrain. L'équipe a contré le jeu nantais, ce qui fait que Nantes n'a pas pu développer son jeu. Et puis seconde mi-temps, on a complètement disparu. On a laissé le ballon au Nantais, c'était une attaque défense, et puis on se fait logiquement punir, sur pénalty, mais ça aurait très bien pu se faire dans le jeu aussi. C'est un peu le copier-coller du match de la semaine dernière contre Nice, où c'était un petit peu mieux offensivement, mais on était à domicile. Et une fois qu'on marque, la semaine dernière c'est pareil, on laisse le jeu niçois.
Dis-moi une chose.
C'est un problème mental, un problème physique.
Benoît, dis-moi une chose. Tous ces changements dans ce club de Caen, ça te fait penser quoi? T'as l'air serein ou tu te dis on sait pas du tout où on va?
C'est la deuxième chose, on sait pas où on va.
Tu sais que tu vas lutter pour le maintien, Benoît.
Non, mais
ce qu'il y a, c'est sûr qu'il y a eu une très grosse crise au Stade Malherbe fin d'année dernière, au plus haut dans le club.
Oui, institutionnel,
On a une équipe de dirigeants qui a voulu maintenir une habitude de gestion, c'est-à-dire que le club doit appartenir à des à des actionnaires normands. Jean-François Fortin avait la possibilité de faire venir des actionnaires à l'extérieur de la Normandie qui pouvaient amener des investissements supplémentaires. Les autres actionnaires ne l'ont pas voulu, donc c'est un choix qui a été fait. Nous derrière, maintenant, on est supporters, on va supporter l'équipe, mais on ne sait pas où on va parce que voilà, tout a changé, le staff, les joueurs. Aujourd'hui sur le terrain, il y avait 9 joueurs nouveaux par rapport à l'année dernière. Donc on est quasiment une nouvelle équipe qui arrive en Ligue 1. On va les supporter, c'est évident. Moi je vois par exemple le premier match, je le compte pas au PSG, on peut pas regarder ça, mais on se dit tiens, on rencontre Nice et Nantes, on fait deux matchs nuls, on dit c'est plutôt pas mal. Mais quand on voit Nice ce soir qui prend 4-0 à domicile contre Dijon, alors il venait de perdre contre Reims à domicile, puisqu'on voit une équipe de Nantes, sincèrement je suis d'accord avec l'auditeur précédent, est quasiment inoffensive. On se dit pour l'instant finalement on a rencontré deux équipes relativement faibles contre qui on a pris un point. La semaine prochaine on va à Dijon, je pense que ça va être une autre histoire.
Moi Benoît, moi je veux dire, enfin ce qui tu me donneras ton avis, mais ce qui m'interroge quand même, c'est la complémentarité de l'animation offensive. On a quand même pris des joueurs devant qui ont un peu le même profil. Que ça soit Crivelli, Chukwunte, Bamou, Ninga. On est sur une cible 85. De joueurs qui se ressemblent quand même et qui jouent. Est-ce que c'est complémentaire? Qu'est-ce que tu en penses?
Non, mais tu as complètement raison. Il nous manque un joueur de couloir. On a perdu Ronny Rodelin. Je sais que le club actuellement recherche encore un milieu offensif. Alors on parle de Weah qui serait prêté par le PSG. Mais est-ce que ce joueur, voilà,
ouais, on en parle joueur, à Strasbourg aussi.
Ouais, c'est on en parle à Strasbourg aussi. Mais je crois que voilà, les deux clubs sont en concurrence pour eux. On va jouer la semaine prochaine. La décision va jouer la semaine prochaine. Mais est-ce que Weah sera complémentaire à tous ces joueurs? J'en sais trop rien. Mais c'est sûr qu'on retrouve encore les mêmes difficultés offensives que l'on avait l'année dernière. On a de nouveau un grand joueur. Un petit peu plus technique que Santini, Chukwunte, il me semble un petit peu plus technique.
Il a quand même fait une très belle saison l'année dernière.
Moi, je l'ai commenté
au Paris
en national. Ouais. Ouais, il a vraiment des qualités, ce joueur.
Ouais, c'est une belle surprise, honnêtement. Il a pas coûté cher et je pense qu'il va nous apporter. Mais sur les côtés, que ce soit Bamou ou Ninga, pour l'instant, on n'a pas retrouvé ce joueur de percussion capable d'éliminer et capable d'amener le danger dans la défense.
Sachant que je remets pas en cause le choix ou les qualités individuelles de ces joueurs-là.
C'est sur la
complémentarité de l'animation offensive que je me pose des questions.
Benoît, merci beaucoup en tout cas.
Merci à
bientôt,
tous.
Bonne
saison à tous.
Merci à toi aussi, Benoît. On rappelle les prochains matchs de Caen. Prochain match déplacement à Dijon, qui est chaud bouillant. Il vient d'en claquer 4 contre Nice. 9 points sur 9. Voilà. Ensuite, ils vont recevoir Lyon et ils vont aller à Saint-Etienne, les Canets. Gros calendrier quand même à venir pour le stade Malherbe de Caen. Tiens, on retourne à Mayol, retrouver Flo Germain. La reprise du top 14 ce soir avec une affiche entre Toulon et le Racing, Flo.
Oui, il se peut qu'on ait la sirène, voilà. Tu l'entends en direct. Et peut-être la fin du match tout de suite. Puisqu'on est au-delà donc des 80 minutes. Le score 25-9, le Racing va s'imposer avec le point de bonus offensif. Oui, voilà, c'est terminé à l'instant même. 3 essais pour les Franciliens, un doublé pour Russell et un autre de Rouanimov. Le Racing, déjà avec cette victoire à Mayol, s'impose comme l'un des favoris, peut-être l'un des prétendants en tout cas, à la victoire finale dans ce top 14 et pour le Brennus. 25-9 pour le Racing ici à Mayol.
Merci beaucoup, bonne soirée Flo. Bonne soirée à toi Flo. Ciao, Flo. Ma collègue va faire la gueule demain, je te l'annonce. Toulon qui a perdu, elle qui a supporté la supportrice du RCT. Dans quelques instants, on sera avec Damien Pélissier. Christophe, putain, il dit Damien parce que je pense à Amiens, tu vois, parce qu'il m'a dit t'as l'heure, après on parle de Damien. Et moi j'ai mis Damien, c'est Christophe Pélissier, c'est con. Victorieux ce soir 4-1 face à Reims. L'entraîneur Damien sera avec nous dans quelques instants dans l'after avec Ludovic Obraniak et avec Ali Benarbia. À tout de suite.
RMC Football Show, l'after foot, Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Ludovic Obraniak et d'Ali Benarbia. On était en train d'égrener les affiches de Ligue 1 de cette soirée, la troisième journée de Ligue 1. Je vous rappelle les résultats. Ça a commencé cet après-midi par une victoire du Paris Saint-Germain. 3-1 face à Angers. On y revient dans quelques instants. On vous attend d'ailleurs, supporters du SCO, supporters du PSG au 32-16. Notamment pour évoquer ce système de jeu tenté en première période par Tourelle avec cette défense à 3 et ce Kerrer qui a été titulaire, ce jeune défenseur allemand.
J'ai bien aimé Areola.
Eh ben, tu vas en parler dans quelques instants.
Très bons arrêts.
Il sera titulaire également face à Nîmes lors de la prochaine journée. Un partout entre Nantes et Caen. On en parlait il y a quelques instants avec Emiliano Sala, buteur du côté FC Nantes. Crivelli a également marqué. Les Canets qui ont joué à 10 contre 11 une partie du match. Amiens a battu Reims 4 buts 1. Ils ont longtemps joué à 11 contre 10. Les Picards également. 0-0 entre Montpellier et Saint-Etienne. Dijon a battu Nice à Nice 4-0. Et puis Toulouse a battu Nîmes 1-0 avec un pénalty de Maxin Lagradel qui avait raté un pénalty en première période et qui a eu donc le mental, les coronets de le refrapper en seconde période et de tromper cette fois-ci Paul Bernardoni. On passe à Amiens, messieurs. Amiens qui a battu le Stade de Reims 4-1. Niaoré, Rhodos, la recrue iranienne de cette équipe d'Amiens, et Konaté, un doublé, ont marqué les buts d'Amiens. C'est Cafaro qui a marqué le but de Reims. Belle victoire d'Amiens. Première victoire cette saison. Ils avaient perdu face à Lyon et Montpellier. Ça y est, ils sont lancés dans leur saison, hein, les Picards.
On va pas dire qu'ils sont lancés, mais pour une équipe qui joue le maintien, c'est très important de bien débuter. Mais je me rappelle, la saison dernière, ils avaient pas trop bien débuté, ils se sont rattrapés aussi.
On avait même fait des paris ici, avec François Monardo, comme quoi lui pariait que Amiens n'allait pas se sauver.
Voilà, j'avais parié qu'il se sauve. Pour vous dire. Mais c'est dans le fond du jeu. Et on en parlait avec Monsieur Pélissier, que si il assurait bien sa défense, qu'elle soit bien compacte, comme dans le fond il jouait très bien, il pouvait plus ou moins s'en sortir. Mais là, c'est déjà bien au bout de la troisième journée de pouvoir gagner et mettre un maximum de buts.
Bah, surtout souvent, Prince était on fire. Hein.
On parle souvent de l'importance des joueurs sur le terrain, mais on parle un peu moins aussi de l'importance du coach. Et ce qu'on discutait avec Ali avant l'émission, c'est l'importance de Christophe Pélissier, la confiance qu'il donne à ses joueurs, la philosophie de jeu qu'il a réussi à installer. Je vois beaucoup de jeux et surtout de complicité et de cohérence dans ce que fait Amiens depuis déjà quelques années, puisque c'est la troisième année maintenant, deuxième année.
Dans la Ligue 1,
ouais.
C'est la deuxième.
La
saison où ils montent, ça joue au football, ça se crée des occasions. Bah, ils prennent surtout du plaisir.
Mais c'est un entraîneur qui est à suivre, en tout cas.
Mais c'est quasiment un exploit qu'Amiens a réussi à le garder. Hein, parce qu'il était pas mal courtisé. On en parlait notamment du côté de Toulouse, parce qu'il est, il est de Revel, Christophe Pélissier. L'une des recrues d'Amiens cet été, on peut le dire, c'est d'avoir gardé Pélissier.
Sans aucun doute. C'est la recrue importante de ce club. Hein, parce que ça permet peut-être à des joueurs de se faire prêter en se disant, avec Pélissier au moins, ça va bien jouer au football, et pour ma progression, c'est une bonne chose. Et ça, c'est très très important pour un joueur. Alors que quand tu joues dans une équipe qui joue le maintien, où t'as que des Golgothes, ben, je te dire que le ballon, tu le vois pas assez souvent dans les bonnes conditions.
Un petit mot sur Rhodos qui a marqué son premier but. Premier joueur iranien d'ailleurs à évoluer et à marquer du coup en Ligue 1 aussi.
Tu es sûr que c'est le premier joueur iranien
évoluer? C'est ce que disait tout à l'heure. Je crois que c'était JC Drouet qui expliquait ça.
C'est le joueur qui vient d'arriver dont le transfert est controversé un peu.
Voilà, parce que soi-disant il aurait signé un contrat avec Huesca avec une clause libératoire à 40 millions d'euros. Et le club espagnol a dit si quelqu'un d'autre le veut, faut payer le montant de la clause, donc 40 millions. Ce qui est un peu cher quand même.
Écoute, il m'a l'air efficace. Premier match. Premier but.
Non, t'as des très bons joueurs iraniens, mais en général, ils restent dans le championnat.
Pourquoi t'as souvenir d'un joueur iranien en Ligue 1, toi ?
Non. Non, non, mais je te posais la question.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Non, non, c'est pas impossible.
Parce qu'en général, j'ai joué en Iran. Et en général, les très bons joueurs iraniens restent en Iran, parce que c'est quand même un beau championnat.
Il y en a quelques-uns qui sont exportés en Allemagne.
Quand on a vu ce qu'était capable de faire l'équipe Durant à la Coupe du Monde, on peut quand même imaginer qu'il y a quelques bons joueurs dans ce
pays. Oui, c'est sûr. Même si c'est vrai que dans le jeu, tu sais qu'il y a eu pas mal de critiques en Iran, parce que Kailosh laissait pas mal de bons joueurs d'ailleurs sur le banc. Il jouait très défensif, très pragmatique. Et du coup, c'est vrai qu'il a eu droit à quelques critiques. Messieurs, priorité au direct. Il vient de cartonner 4-1 face à Reims. C'est l'entraîneur d'Amiens, Christophe Pélissier, qui est en direct avec nous dans l'after. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Salut Christophe.
Comment ça va Christophe?
Ça va mieux. Après deux défaites, quand on gagne un match, ça va un peu mieux.
Alors c'est vrai que la saison avait débuté difficilement pour Amiens, défaite 2-0 face à Lyon, 2-1 face à Montpellier. Qu'est-ce qui a changé là ce soir face à cette équipe de Reims qui, elle, pour le coup, avait bien débuté sa saison justement?
Essentiellement l'efficacité, parce que ce soit à Lyon ou que ce soit contre Montpellier, on a eu l'occasion de marquer, on n'a pas fait, on s'est fait punir derrière. Ce soir, la différence de niveau, elle n'est pas comme le score l'indique entre les deux équipes, mais bon, on a été très efficace. On a profité aussi d'un fait de jeu qui nous fait jouer en supériorité numérique pendant une heure. Donc voilà, cela explique cela, mais je pense que surtout, on a été efficace offensivement.
Christophe Pelissier est en direct avec nous dans l'after. Amiens qui s'est imposé 4-1 face à Reims. Ali Benarbia a une question pour toi, Christophe.
Salut Christophe, félicitations pour cette victoire.
Merci.
Alors, juste une question très courte, parce qu'on m'a dit de faire très court. Dis-moi.
Ça fait longtemps qu'on te l'a dit, c'est pas pour ça que tu l'as fait.
Non, mais là, je vais faire très court. Étant donné que t'es très proche de Toulouse, je te voyais vraiment aller coacher cette équipe qui m'endort tellement depuis des années que j'aurais été content que t'ailles là-bas. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Voilà, j'arrête.
Bah, t'es le régional de l'étape, hein, un peu. T'es de Revel, Christophe. C'est vrai que c'est pas loin de chez toi.
Oui, il y a eu des contacts, c'était un souhait, mais voilà, il reste un an de contrat ici à Amiens, et le président d'Amiens a voulu que je termine mon contrat ici, donc c'est ce que je fais.
Alors, c'est vrai qu'Amiens s'est sauvé l'année dernière, tu avais fait monter cette équipe en Ligue 1. On a souvent tendance à dire, Christophe, que la saison de la confirmation est la plus difficile. Mm-hmm. Est-ce que tu as déjà ce sentiment aussi après 3 journées seulement?
C'est des choses que j'ai beaucoup entendues, et dès le premier jour de la reprise, j'ai dit aux joueurs que pour moi, c'était, je croyais pas à ça, je croyais surtout que la saison, je leur ai dit qu'on en ferait ce qu'on voudrait bien en faire, c'est-à-dire que si on retrouvait, c'est du moins les valeurs et l'humilité, la solidarité qu'on avait fait preuve toute la première saison, et que si on pensait qu'après une saison, on était des véritables joueurs de Ligue 1, puisqu'il y a la plupart quand même qui arrivent de National, que l'on serait de suite puni, donc je pense qu'ils ont compris le message, même sur les deux premiers matchs, on perd quand même contre Lyon et Montpellier, il n'y a rien d'infamant à ça, mais je trouvais que voilà, on n'était pas dans la solidarité qu'on avait fait preuve l'année dernière, donc ce soir, ma satisfaction, elle vient de là.
Ludovic Aubagnac a une question pour toi, Christophe Pelissier. On rappelle la victoire d'Amiens ce soir, 4-1 face à Reims.
Bonsoir Christophe, on en discutait en off.
Ludo cherche un club, je vais te la faire vite.
Volontiers, je m'éclaterai sûrement, je vois Mathieu Bonnemer
qui
s'éclate là-bas, ouais, je m'éclaterai sûrement. Mais c'est pas la teneur du sort, félicitations déjà pour votre victoire. Et on en discutait en off avec les collègues, mais on est assez admiratif du travail que vous faites dans ce club-là. Vous étiez, comme vous le disiez, pas forcément prédestiné à rester une seconde saison en première division. J'aimerais savoir un peu votre secret pour tirer tout le potentiel de cette équipe-là. On dit que vous êtes un peu la main de fer dans le gant de velours. Est-ce que c'est vrai?
Je ne sais pas, parce que j'aime pas trop parler de moi, mais simplement, moi, j'ai une philosophie à la fois sur le jeu avec une notion de plaisir pour moi qui est importante. Quand je dis plaisir, attention, c'est pas prendre son plaisir individuel, mais le plaisir collectif qu'on peut prendre de plusieurs manières en étant très solidaire, et puis en jouant, en essayant de se créer des occasions à marquer, parce que on dit souvent les promus, voilà, on va défendre. Alors bien sûr qu'il y a des matchs, quand on joue les gros, on peut pas faire autrement. Mais notre volonté, c'est toujours de travailler la semaine pour essayer de mettre l'adversaire en difficulté. Et voilà, après, disons que je suis quelqu'un à la fois qui est très proche des joueurs, parce que voilà, j'aime ce contact avec les joueurs, j'aime créer un collectif. Mais après, il y a des choses sur lesquelles, il faut pas transgresser, quoi, notamment dans le jeu. Il y a des choses où il faut être très pragmatique pour pouvoir être performant.
Christophe Pelissier, est-ce que le mercato du côté d'Amiens est terminé? Est-ce que c'est fini? Alors Rodo s'est arrivé, il a même marqué d'ailleurs ce soir. Est-ce que on attend d'autres joueurs à Amiens ou c'est fini?
Non, le mercato n'est pas fini. Alors j'espère qu'il est fini dans le sens des départs.
Attends, petite parenthèse, on en est où avec Guano justement qui a lancé Anderlecht?
Prince que j'ai eu dans la semaine au téléphone. C'est une situation qui est compliquée, c'est pour ça que
Il est en arrêt maladie, c'est ça?
Il y a eu des banderoles aujourd'hui dans le stade, mais bon, c'est il faut comprendre bien la situation, les tenants, les aboutissants, et connaissant bien sûr la qualité du joueur qui est extraordinaire, mais surtout la qualité de l'homme qui était quand même mon capitaine et qui est mon capitaine, et j'espère que il va rester avec nous. Donc c'est pour ça que je dis que je souhaite qu'il n'y ait pas de départ. Après, pour les arrivées, c'est pas parce que la semaine dernière, voilà, on avait perdu que je disais il me faut un attaquant. Aujourd'hui, parce qu'on a gagné en marquant 4 buts, je dis c'est terminé. Non, c'est une réflexion que je mène depuis quelques semaines avec mes dirigeants, et il y aura 2 joueurs qui vont arriver, je pense. Oui. Un offensif et un défensif.
Et tu sais déjà qui, ou c'est pas encore ciblé?
Ouais, j'ai des pistes bien sûr, mais bon.
Bon, tu peux nous le dire,
il y a du monde dessus. Il y a du monde dessus.
Ah, donc c'est Ludovic Obraniak.
C'est plutôt un offensif, attaquant.
Oh, le mec, il est en train de te mettre l'affaire à l'envers, là, Ludo, là.
Non, il a dit attaquant. Bon, il va se transformer en attaquant, là, d'ici ce soir.
Bon, merci en tout cas, Christophe. Encore bravo pour cette victoire.
Merci.
Bonne soirée, à bientôt, bonsoir, Christophe.
Bonne chance.
Bonne soirée.
Merci beaucoup. Ciao, ciao. Voilà, Christophe Pellissier, l'entraîneur d'Amiens, en direct avec nous dans l'after. On aurait tout essayé, Ludo. Franchement, on aurait tout essayé.
T'as fini. Ouais, mais du coup, t'as été assez lourd de relancer.
Tu penses?
Ouais, je pense.
T'as vu, je me suis.
C'est mon problème,
ouais.
Ouais,
je me suis abstenu. C'est mon problème.
Je pense que c'est toi, là. T'as fait
J'ai trop insisté, forceur.
T'as fait quoi? Non, il fallait juste un petit peu donner. Il faut pas d'un coup. Je me suis abstenu après, tu vois.
Messieurs, dans quelques instants, on viendra sur le match entre Toulouse et Nîmes. La victoire 1-0 des Toulousains avec un pénalty de Gradel, supporter du TFC, supporter du Nîmes Olympique. On vous attend au 32-16. Et puis Montpellier-Saint-Etienne a eu 0-0 également. Si vous voulez en parler, on vous attend là aussi. On reviendra aussi sur la victoire du Paris Saint-Germain. 3-1, cette victoire du PSG avec un système de jeu new look de la part de Thomas Tuchel. Est-ce que vous avez aimé, tiens, cette défense à 3 ou au contraire? On vous pose la question d'ailleurs. C'est l'un des sondages de l'after. Est-ce que vous voulez que le PSG reste avec une défense à 4? On vous attend là aussi pour y répondre avec Ali Benarbia et Ludovic Obraniak au 32-16. À tout de suite.
RMC, le football show, l'after foot.